je propose dans la foulée du message d'Alain la semaine dernière concernant l'enthousiasme que doit produire la joie que nous trouvons dans le Seigneur, de justement se laisser inspirer par l'expérience et les attitudes des psalmistes. Alors on va lire ensemble le psaume 130, mais qui va faire écho des sentiments exprimés déjà dans le psaume 9, où le psalmiste disait au Seigneur, « Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. » Et le psaume 43, où il dit, « J'irai vers l'autel de Dieu ma joie et mon allégresse. » Donc dans le psaume 130, le psalmiste écrit, « Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel. Mon âme espère et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin. Que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Alors la première source de joie pour le psalmiste que nous découvrons dans ce psaume, c'est que le psalmiste a découvert ce salut qui se trouve auprès de Dieu. Et ce salut transforme sa situation et surtout le fait de se rappeler de ce salut, de penser, de méditer ce salut, transforme son attitude de cœur, transforme la situation par laquelle il passe. Penser à ces vérités, se rappeler ces vérités en disant « Mais le pardon se trouve auprès de toi. J'espère en l'Éternel. Mon âme compte sur l'Éternel. Mets ton espoir en l'Éternel car la miséricorde est auprès de lui. La rédemption est auprès de lui en abondance. » Le fait de méditer et de se rappeler ces vérités l'aide au moment où il dit qu'il se trouve au fond du trou. Puisque c'est comme ça que commence le psaume, n'est-ce pas? Du fond de l'abîme, je t'invoque au Éternel. Il avait l'impression d'être au fond du trou, et puis, au fur et à mesure qu'il se rappelle de ses vérités, sa manière de vivre les choses est transformée. Se rappeler les vérités de Dieu, se rappeler la source de notre salut est un moyen important pour nous encourager. C'est une des armes que Dieu nous a données pour que, justement, les jours où on a l'impression d'être au fond du trou, nous pouvons nous rappeler ce que Dieu a fait pour nous, celui qui est notre Dieu, et cela nous encourage pour que la position, la situation du psalmiste soit complètement inversée, transformée, à partir du fond de l'abîme, je t'invoque. Seigneur, écoute ma voix. À la fin du psaume, après s'être rappelé ses vérités, il peut dire aux autres, Israël, mets ton espoir en l'Éternel. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Sa manière, son perspective a été complètement bouleversée, inversée, parce qu'il s'est rappelé les vérités que Dieu lui avait révélées et qu'il a vécues avec le Seigneur. Ce n'est pas une attitude irréaliste, ce n'est pas du déni, ce n'est pas la politique de faire la tête d'autruche, c'est une déclaration de foi lorsqu'on se rappelle ce que Dieu a dit, ce que Dieu a fait, et qu'on permet cette perspective de transformer ce que nous sommes en train de vivre et que nous nous encourageons à mettre notre foi dans le Seigneur. Certes, ça ne va pas forcément faire disparaître nos problèmes. Le psalmiste, fort probablement sa situation extérieure, n'avait pas changé dans le temps de se rappeler ce que Dieu avait dit, ce que Dieu a fait, mais sa manière de vivre ces choses s'était transformée parce qu'il avait redécouvert la joie de son salut qu'il avait reçu de la part de Dieu en se rappelant ce que Dieu avait fait. Et cela transforme sa manière de vivre les choses et son perspective sur la vie. Car le psalmiste sait du coup que quelle que soit sa situation, Dieu est là avec lui. Dieu l'a sauvé. Nous, nous pouvons faire la même chose que le psalmiste. Nous rappeler ce que Dieu a dit à notre sujet. Lorsqu'on a l'impression d'être au fond du trou, nous pouvons nous rappeler la fidélité de Dieu, les promesses de Dieu, tout ce que Dieu a fait, et se rappeler que quelle que soit la situation qu'on vit, par laquelle on passe, nous savons que l'essentiel est réglé. Le Seigneur a déjà réglé la question la plus importante pour notre vie. Il peut avoir d'autres complications autour, mais la question essentielle de l'avenir de notre âme et du bien-être actuel de notre âme est réglée si nous sommes sauvés en Jésus-Christ. Si nous avons découvert nous aussi ce salut qui est auprès de Dieu. Dans 2 Timothée chapitre 1, l'apôtre Paul dit « C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. » Donc l'apôtre Paul était humainement parlant en position de se trouver au fond du trou, mais il dit « Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. » Il dit, même dans mes difficultés, même dans les souffrances, je n'ai pas perdu l'espoir, je n'ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru. C'est en gros ce que dit le psalmiste dans ce psaume. Du fond de l'abîme, je crie, et puis, au fur et à mesure que l'Esprit de Dieu lui rappelle les vérités, c'est comme s'il dit, mais je sais en qui j'ai cru. Donc, je mets mon espoir en l'Éternel. Paul dit, je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Ce jour-là étant donc le dernier jour lorsque Jésus va revenir et le jour du jugement, lorsque le Seigneur demandera des comptes à chacun. Paul dit, quelles que soient les autres circonstances par lesquelles je passe, au moins, j'ai cette assurance, j'ai cette paix qui vient de savoir que la question principale est réglée, car je sais en qui j'ai cru et je sais que je peux lui faire confiance jusqu'au bout. Donc, dans les versets 3 et 4, le psalmiste se rappelle la grâce de Dieu. Il se rappelle ce que Dieu a fait, ce que Dieu a dit. Et finalement, quand on lit ces versets 3 et 4, on a, si vous voulez, un concentré de l'Évangile des siècles à l'avance, des siècles avant que Jésus ne vienne. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Ça rappelle ce que l'apôtre Paul allait pouvoir écrire des siècles plus tard en Éphésiens chapitre 2, quand il dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Le psalmiste voit pertinemment, si ça dépendait de nous, si notre espoir, si le salut dépendait de ce dont nous sommes capables, de nos œuvres, de ce que nous pourrions faire, La seule chose qui vous attendrait, ce serait le jugement, la condamnation, la perte éternelle. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Parce que finalement, la Bible nous dit que peu importe le degré de notre péché, et on va toujours, en cherchant, pouvoir trouver quelqu'un qui est pire que nous, qui est plus grand pécheur que nous, Dieu nous dit, telle n'est pas la question. Ce n'est pas, est-ce que vous êtes à 100% pécheur? Il dit, à partir du moment où vous commettez un péché, vous êtes pécheur. En Jacques 2, il dit, si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Si ça dépendait de nos compétences, de nos capacités, de notre obéissance, en effet, Seigneur, qui pourrait subsister? Personne. Il n'y a personne ici, bon, je sais que vous êtes tous très gentils, vous êtes tous presque parfaits, mais presque parfait ne passe pas. Presque parfait ne passera pas au jour, le jour du jugement. La seule chose qui passera ce jour-là, c'est la perfection à 100%. C'est pour ça que l'apôtre Paul met les Galates en garde en disant « Ne pensez pas maintenant que c'est à vous de terminer l'œuvre de Dieu par vos efforts. Si vous comptez sur votre propre justice, vous êtes perdu. Qui subsiste ? Car même 99, vous avez peut-être vu toujours la publicité de toutes les désinfectants, élimine 99,99% des microbes et des maladies. Dieu nous dit même, si vous arrivez à éliminer 99,99% de votre péché, le 0,00000001% qui reste, c'est encore de gros. Si ça dépend de nous, qui pourrait subsister? Mais verset 4, mais le pardon se trouve auprès de toi. Finalement, le message du psalmiste, c'est le message du Nouveau Testament. Personne n'est assez parfait pour mériter le salut. L'apôtre Paul va dire même dans Romains, regardez même Abraham, notre père. Même lui, il n'a rien mérité auprès de Dieu. Il ne peut pas se vanter devant Dieu. C'est par la grâce qu'il a été sauvé. Le psalmiste s'est rendu compte que finalement, tout est basé, tout son salut, tout son espoir est basé sur le fait que Dieu décide, dans sa grâce, de pardonner. Ce n'est pas que quelqu'un l'a mérité, c'est que Dieu a pris cette décision. Si tu viens à moi, si tu me confies ta vie, si tu fais confiance à ce que je dis, à mes promesses, je compterai cela aux justices pour vous et je vous pardonnerai. Ça ne dépend pas de nous. C'est lui qui dit, j'ai tout fait, je vous propose ce pardon. Est-ce que vous allez me faire confiance qu'en suivant ma manière de faire, je vous pardonne? C'est ça, le moyen de la foi par laquelle nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Si tu gardais le souvenir des iniquités, si tu gardais le souvenir de tout ce que je fais, Seigneur, qui pourrait subsister devant toi? Mais le pardon se trouve auprès de toi. Dieu a pris cette décision de pardonner. Et cette paix, cette joie dont j'ai pu parler tout à l'heure, que Jésus nous dit, peut nous accompagner même dans les événements difficiles, même dans les événements qui peuvent être déstabilisants. Tout cela dépend, comme a trouvé le psalmiste, du fait d'avoir trouvé auprès de Dieu le pardon de nos iniquités, pour savoir qu'à la fin, je serai accepté par Dieu, et que même aujourd'hui, je suis accepté par Dieu, parce que j'ai cette perfection du sacrifice que Dieu a prévu pour mon péché, qui est mis sur mon compte, et qui me rend parfait à ses yeux. Donc il dit, Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. La rédemption est auprès de lui en abondance. Peu surprenant que plus tard l'apôtre Paul pouvait dire « La loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. » C'est la base de l'espérance du psalmiste, c'est ça qui transforme sa manière de vivre les choses, c'est ça qui fait que, à partir d'une base où il est en train de s'apitoyer sur son sort, du fond de l'abîme, je t'invoque, Seigneur, écoute ma voix. Il peut dire, mets ton espoir en l'Éternel, car c'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Effectivement, il y aura ce jour futur où le Seigneur rachètera la nation d'Israël de toutes ses iniquités. Mais déjà nous qui avons été greffés dans ce peuple, nous avons cette confiance qui nous rachète de toutes nos iniquités. C'est ce qui a encouragé le psalmiste, c'est ce qui peut nous encourager aussi dans nos situations de vie, qui peut produire cette joie. Mais le psalmiste dit dans la fin du verset 4 que le but de ce salut n'est pas tellement de juste éviter les conséquences de notre péché, de dire « pouf, ben comme ça je suis tranquille maintenant, je n'ai pas de jugement à craindre ». C'est avant tout de connaître Dieu. Le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Parce que finalement, au-delà de la joie de savoir que notre péché est réglé, est pardonné, est racheté, il y a cette joie de connaître le Seigneur, de se trouver dans sa présence, de vivre avec lui. Dans les versets 5 et 6, finalement, toute l'espérance du psalmiste est ancrée en Dieu lui-même. S'il a de l'espoir du pardon, du salut, c'est parce que son espoir est dans le Seigneur. C'est parce que j'espère en l'Éternel. Mon âme espère et j'attends sa promesse. Tout est centré sur la personne de Dieu, sur la bonté de Dieu, sur la bienveillance de Dieu, sur la fidélité de Dieu. Donc il dit, mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin. Que les gardes ne comptent sur le matin. Alors, Si on prenait le temps ce matin de regarder ces deux versets dans plusieurs traductions différentes, on trouverait plusieurs manières différentes de traduire ces versets. Alors, vous savez, comme nous tous qui jonglons tout le temps au Luxembourg avec plein de langues différentes, quand on essaye de traduire d'une langue à autre, on a l'idée générale, mais moi je choisirais peut-être un mot pour le traduire, j'ai trouvé un autre, Barbara une autre, Espérance encore une autre, tout en gardant cette même idée. C'est le cas ici dans ces versets. Parce que finalement, quand on regarde dans l'hébreu qu'a employé le psalmiste, l'idée qu'on trouve dans ces versets 5 et 6, c'est de parler de toute une gamme de sentiments autour de l'espoir, de s'attendre à quelque chose, ou d'attendre que Dieu fasse ce qu'il a promis de faire. D'attendre la venue de ce Dieu qui a promis de pardonner, auprès de qui se trouve le pardon, auprès de qui se trouve la miséricorde et la rédemption. C'est pour ça que vous allez trouver dans différentes traductions, différents mots. Et puis, en plus, si on lisait dans l'hébreu, d'être le plus simple, c'est qu'on se mette tous à apprendre l'hébreu et le grec, et comme ça, on n'a plus de soucis de traduction pour la Bible. Mais si on lisait le verset 6 dans l'hébreu, on découvrirait qu'en fait, il n'y a pas du tout de verbe dans l'hébreu. Il y a des verbes dans le verset 5, j'espère en l'Éternel, j'attends sa promesse, même si le traducteur il a essayé de trouver le moyen de faire sortir toute cette gamme de sentiments. En fait, en hébreu, il y a un même verbe à chaque fois. Donc, j'attends sa promesse. Et puis, il continue. Donc, c'est comme s'il dit, moi, j'attends sa promesse, mon âme, le Seigneur, plus que les gardes le matin. Plus que les gardes le matin. Donc, en fait, il fait appel à ce qu'il a dit dans le verset précédent. Moi, j'attends l'Éternel, mon âme, finalement, attend l'Éternel comme les gardes attendent le matin. Alors, vous avez peut-être déjà fait l'expérience, si vous avez dû être debout, veiller la nuit, à partir de 4h30, ça commence à sembler long, n'est-ce pas? Je me souviens, une fois quand je devais attendre l'ouverture du dentiste, les oranges dentistes avaient dit « Bon, demain matin, vous allez tout de suite chez le dentiste. » Quand arrive 4h30, 5h, 5h30, on n'a plus qu'un espoir, c'est que le temps passe un peu plus vite et que la nuit soit terminée, que ce soit le matin, que le dentiste soit ouvert et qu'on puisse aller faire régler son problème, n'est-ce pas? C'est ça l'image qu'emploie le psalmiste. Il dit, moi, j'attends l'intervention de mon Dieu autant que, même plus que les gardes qui doivent faire leur ronde toute la nuit l'attendent le matin. Quand il est 4h, 4h30, 5h, 5h30, et qu'ils sont en train de se dire, ça va bientôt être fini, non? Et c'est comme ça, c'est avec une telle attente, une telle désir, que j'attends l'intervention de mon Dieu. Je l'attends avec une telle espérance, avec une telle impatience. Je désire voir rencontrer mon Seigneur. C'est lui que j'attends. Que mon âme attend. Il attend que Dieu fasse ce qu'il a dit. J'attends sa promesse. J'attends l'accomplissement de sa parole. Il attend que Dieu soit là, parce qu'il sait que lorsque Dieu est là, tout sera bien. Donc, du fond de son trou, il dit finalement, ce que j'attends, c'est que Dieu vienne auprès de moi. Car je sais qu'auprès de lui, il y a le pardon, il y a la rédemption. Je sais qu'auprès de lui, je serai bien. même finalement au fond de mon trou, si Dieu est là, là au fond de mon trou avec moi, tout sera bien. Je serai bien, car je connais mon Dieu, je sais en qui j'ai cru et je sais que je peux lui faire confiance. Donc, mercredi, dans la réunion de prière, on a regardé ensemble Philippiens 4, 4, qui dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. On a finalement peu de problèmes avec la partie « Réjouissez-vous » du verset. Par contre, on a parfois quelques problèmes de plus avec la partie « Toujours ». Mais comment se réjouir toujours dans le Seigneur? Comment se réjouir dans le Seigneur quand justement on est au fond de mon trou? Ben, si le Seigneur lui-même est la source de notre joie, alors effectivement, même au fond de notre trou, nous pouvons nous réjouir dans le Seigneur. C'est ce que fait le psalmiste. Il dit, du fond de l'abîme, j'appelle, j'attends. Mon Dieu, plus que les gardes n'attendent le matin, car alors je sais que tout ira bien, que je serai bien, parce que je connais celui en qui j'ai cru. Alors, on peut effectivement toujours se réjouir dans le Seigneur, si c'est lui notre joie. Et donc, dans le verset 6, il dit, j'attends mon Dieu. Il attend Dieu plus que les gardes n'attendent le matin. Dieu peut par un seul mot régler nos situations, régler nos problèmes, ou pas. Dans la Bible, on voit Dieu qui guérissait d'un mot. Seigneur, tu n'as même pas besoin de te déplacer jusqu'à ma maison. Un seul mot de ta part et mon serviteur sera guéri. Et puis, plus tard, lorsqu'il rentre à la maison et qu'il se renseigne sur le moment où son serviteur a été guéri, il s'est rendu compte que c'était pile au moment où Jésus a prononcé la parole devant lui. Mais le même Seigneur a dit à l'apôtre Paul, « Écoute, je ne te guéris pas, mais ma grâce te suffit. » Par contre, ce qui change tout, c'est sa présence. Plus qu'avoir nos problèmes réglés. Parce que, bon, selon ce que dit Jésus, même si un problème est réglé, comme disent les panneaux, parfois, une galère peut en cacher une autre. Même si le problème pour lequel je prie aujourd'hui est réglé, je peux compter sur le fait que bientôt viendra un autre. Par contre, le Seigneur, lui, il est fidèle. Sa présence ne change pas. Sa présence dans les bons jours comme dans les mauvais jours change tout, comme pour le psalmiste. C'est pour ça que le psalmiste dit, moi, j'attends le Seigneur. Ce que j'attends, c'est sa présence, plus que les gardes n'attendent le matin. Effectivement, à la fin des temps, c'est sa présence aussi qui va tout changer, qui va tout régler. Nous vivons dans un monde qui peut nous désespérer. Ça nous désespère au point que il y a certaines personnes dans nos sociétés qui disent « Ce serait trop injuste de faire venir un enfant dans un monde pareil. » On prend la décision de ne pas avoir d'enfant. Tellement ils se trouvent désespérés par notre monde. D'autres se déconnectent complètement de la société en disant « On est tellement dégoûtés, tellement désemparés, tellement désespérés. » Qu'on vit tout seul dans notre coin sans embêter qui que ce soit, sans avoir de contact avec qui que ce soit. Mais la Bible nous dit que pour nous qui croyons dans le Seigneur, pour nous qui attendons le Seigneur, notre réaction peut être différente. Au lieu d'être désespéré, cela doit nous rappeler d'espérer dans l'éternel. Justement, à nouveau, cette contradiction. Apocalypse 22, versets 16 et 17. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Finalement, c'est ce que disait le psalmiste. Seigneur, moi je suis au fond du trou, mais viens. Moi j'attends le Seigneur. Nous pouvons être dans un temps d'attente. Nous devrions, justement, en voyant les événements, être dans un temps d'attente où nous disons, j'attends que le Seigneur intervienne. Quand je vois le monde autour de moi, j'attends que le Seigneur revienne. Mon âme attend le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin. Ça change notre perspective de se rappeler cette réalité. Au lieu d'être fixé sur une galère qui peut sembler énorme sur le coup, mais qui peut vite disparaître, cela nous rappelle que finalement, ce qui va régler tout, ce n'est pas que mon problème disparaisse, c'est que le Seigneur revienne. Ce qui va régler tous mes problèmes, ce qui va régler tous les problèmes de ce monde, c'est que le Seigneur revienne. Parfois, on est tellement pris par le détail de l'immédiat qu'on perd de vue que la vraie solution, c'est que le Seigneur Jésus revienne. Pour ça que l'apôtre Paul dit, mais rachetez le temps, faites tout pour faire avancer la venue du Seigneur. Le cri de notre âme doit être effectivement, viens, car mon âme attend le Seigneur plus que les gardes le matin. Est-ce que c'est notre désir que le Seigneur revienne? Est-ce que notre espérance le plus profonde, c'est que le Seigneur revienne afin qu'on soit avec lui? Tellement, ce sera tellement plus fantastique que juste, ah ben, le Seigneur a réglé mon petit problème, ou il m'a donné le petit jouet que je voulais. Le Seigneur lui-même qui reviendra. Que notre espérance soit centrée en lui, que lui soit notre espoir. Mon âme compte en lui, j'espère en l'Éternel. Israël, mets ton espoir en l'Éternel. Nous pouvons, même dans ce temps d'attente, être joyeux. Certes, notre joie sera X fois plus grande le jour où on va rencontrer le Seigneur en personne. Mais déjà, on peut être joyeux à cause du salut qui nous permet déjà d'avoir un petit aperçu, un petit avant-goût de la présence du Seigneur. C'est merveilleux, je disais tout à l'heure, lorsque nous ressentons la présence de Dieu, mais on n'a encore aucune idée ce que ce sera d'être avec lui pour l'éternité, de le voir tel qu'il est, de ne plus avoir que ce reflet qui est un peu déformé par notre nature actuelle, mais où nous le connaîtrons tel qu'il est et tel que nous sommes connus. Mais déjà, nous pouvons être joyeux à cause de cet avant-goût, à cause de ce que nous connaissons déjà de sa présence et à cause de ce qu'il a fait pour nous et à cause des promesses qu'il nous a données pour l'avenir. Donc finalement, est-ce que c'est Dieu qui est au cœur de mes attentes, de mes espoirs? Est-ce que c'est lui que je désire plus que toute autre chose? Le psalmiste dit, le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Le but même de vouloir être sauvé, c'est de pouvoir connaître Dieu, de pouvoir ressentir sa présence. C'est que lui, il vienne à nous, car il nous a sanctifiés pour être dans sa présence. Est-ce que lui, il est notre plus grand espoir? Que ce matin, nous puissions l'attendre, nous désirer, attendre sa rencontre et mettre surtout notre espoir en lui. Que nous puissions le désirer plus que toute autre chose.